Nous recevons ce soir David Le Bailly, qui est un jeune journaliste à Paris Match, et qui s'intéresse à un thème qu'on n'attendait pas forcément sous la plume d'un journaliste de cette génération. Je le dis sincèrement, parce que ça a été un peu surpris. Puis j'ai dit, ouais. Et alors, il appelle son livre « La captive de Mitterrand ». Donc très vite, on comprend qu'il s'agit de la mère de Mazarine, de la compagne du président, et donc d'Anne Pinjot. Alors, David, moi, comme je dis, je n'attendais pas ça sous la plume d'un journaliste de votre génération, très sincèrement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous, tout d'un coup, vous intéresse, vous pousse à essayer d'approcher d'abord Anne Pinjot, et puis de vous intéresser à elle jusqu'à vouloir en faire une biographie, ce qui sera finalement une biographie non autorisée, on peut dire.
Avec, et qui n'est plus vraiment une biographie.
Et qui n'est plus tout à fait une biographie, qui est plus une enquête journalistique, quasiment. Et en même temps, un peu quelque part, un portrait en creux du président. Comment
Ce qui est intéressant, c'est vrai que le problème de génération, bonjour déjà. Moi, je suis parti en fait d'une chose très simple, c'est-à-dire que moi, c'est une photo d'Anne Pinjot qui m'a au départ interpellé. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, c'était au moment du 30e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Et le journal du dimanche avait fait un portrait d'Anne Pinjot, un petit portrait sur une demi-page. Et il y avait ils avaient demandé un photographe ou un paparazzi de la prendre en photo. Et je trouvais ça incroyable parce que cette femme, on la voyait, elle a les cheveux blancs, sa coupe de cheveux. Et finalement, elle avait quelque chose de très... dans cette photo, il y a quelque chose de très touchant, en fait. Et je me disais, c'est incroyable parce que cette femme que personne ne connaît, finalement, sur laquelle très peu de choses ont été écrites, a une vie quand même mais exceptionnelle, une vie vraiment ce qu'on appelle extraordinaire, hors de l'ordinaire. Elle a été quand même la compagne cachée d'un président de la République, elle a vécu dans un palais de la République, elle a été autour d'elle, s'est organisée quand même une sécurité parallèle avec tout un système de surveillance. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable, cette femme a vécu 30 ans à côté d'un des hommes les plus célébrés de France aujourd'hui, et personne ne connaît qui elle est. Ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui les unissait l'un à l'autre.
On n'a jamais soulevé la voilette.
On a toujours privilégié dans cette histoire la fille,
Mazarine,
évidemment, mais en oubliant un peu facilement que, pour moi en tout cas, que la véritable héroïne de cette histoire, celle qui est décisionnaire, qui est le moteur de cette histoire, c'est la mère.
Alors on va voir,
la fille est la victime de cette histoire, mais c'est la mère. Et je trouvais, en tout cas pour finir, c'est-à-dire qu'il y avait une trame très romanesque dans l'existence de cette femme. Et donc c'est ça, moi, qui m'a... La première chose, je me suis dit, une femme qui a une vie aussi hors du commun, il y a quelque chose à aller fouiller, voilà, à aller creuser.
Alors vous dites très bien, et après on va revenir à la lettre que vous lui avez envoyée, parce que vous l'avez écrit
en
espérant faire une biographie autorisée, j'imagine, au départ. Et vous dites dans la lettre, elle est notre mémoire, écrivait votre fille, donc Mazarine. Elle parlait au nom de votre famille, alors sur le point de s'agrandir, mais j'ai envie de vous écrire ceci au nom de ma génération, on y revient. Vous êtes une partie de notre mémoire, la part manquante de François Mitterrand.
Ouais, c'est marrant, parce que ce que j'écrivais ça, je l'ai écrit, c'est la première chose. Ma première démarche a été de lui écrire, en fait, de lui écrire un long courrier pour lui... Voilà, je savais, cette femme, en plus, a une dimension, quand je parlais de la dimension romanesque, c'est une femme qui n'a jamais parlé. Donc en plus, il y a ce silence qui... évidemment, la rend presque comme un personnage de roman, en fait. C'est ça aussi. Et donc, la première démarche que j'ai entreprise, c'était de lui écrire. Et en fait, cette part manquante de François Mitterrand, vous savez, c'était une intuition que j'avais au départ. Mais au fur et à mesure de mon enquête, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça. C'est qu'à travers Anne Pinjot, on découvre vraiment le vrai François Mitterrand, le François Mitterrand intime, pas intime au sens... amoureux, sentimental, mais intime au sens de ce qu'il était vraiment, au sens de son ADN. C'est-à-dire, finalement, Anne Pinjot, c'est un miroir de ce qu'était François Mitterrand.
Oui, c'est un miroir en creux de Mitterrand en même temps.
C'est un miroir de
un portrait en creux, oui.
Un grand bourgeois, des origines provinciales, catholiques, conservateurs. Et c'est évidemment à travers... Parce qu'Anne Pinjot, évidemment, vient de ce milieu-là, et c'est ce qui va les unir au départ, en fait. C'est que le père d'Anne Pinjot est un des meilleurs amis de François Mitterrand, et ce qui les unit, c'est aussi des acquaintances et politiques Et
idéologique. Et
oui, bien sûr, tout à fait. Idéologique, d'ailleurs, peut-être plus que politique, d'ailleurs, finalement.
Ouais, oui. Voilà. Comment. Alors, cette idée, vous me racontez, vous êtes venu un jour en Italie, je crois. Et puis. Alors, d'abord, elle refuse. Elle vous répond pas.
Elle répond pas. Elle répond pas du tout. J'ai aucune nouvelle pendant un moment. Donc, moi, j'en parle à mon éditeur d'alors, qui est Jean-Marc Roberts, hein, qui lui.
Quand on salue mémoire au passage.
Voilà, exactement, qui est mort malheureusement.
Un formidable éditeur.
Et il me dit, il faut absolument qu'elle réponde, parce que bon, et on se dit, bon, finalement. Elle répondra pas, elle va rester fidèle à ce vœu de silence qu'elle s'est qu'elle s'est imposé ou qu'elle a choisi, je sais pas exactement. Et donc j'ai commencé un peu à essayer d'interroger les gens qui ont connu François Mitterrand et qui l'ont connu elle. Et puis là, il y avait des réactions qui étaient alors vraiment totalement incroyables. C'est-à-dire que c'était des réactions comme si je m'attaquais, comme si je voulais écrire sur une icône. Enfin, c'était vraiment une sainte vierge. C'est Anne Pinjot. Non, s'il vous plaît, n'écrivez pas sur Anne Pinjot. C'est interdit. C'est pas possible. Enfin, il y avait vraiment cette réaction.
Vous attaquez à la mémoire du président quasiment en attaquant
oui,
Anne
mais,
Pinjot.
Oui, mais encore une fois, c'est-à-dire que je m'attaquais à ce qui était là encore le plus secret de Mitterrand, cette partie la plus secrète. Et encore une fois, il y avait quelque chose d'assez paradoxal. Il y avait quelque chose comme si, parce que c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé à la fin de mon enquête, c'est-à-dire pour mieux sanctifier la fille, ils avaient sacrifié la mère.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment ça pour moi.
Quelle image vous aviez d'Anne Pinjot à ce moment-là? Est-ce que c'est l'image de la voilette au cimetière de Jarnac, dont parle un moment son institutrice,
ouais, tout à
qui
fait,
dit la pauvre femme, on ne fait plus jamais ça depuis 50 ans, voilette noire de cette taille, de cette épaisseur, voilà.
En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu toute une littérature sur Mitterrand. Des milliers de livres ont été écrits. Et finalement, Anne Pinjot, elle apparaît quasiment pas. Hein. Enfin, mais quand elle apparaît, on a l'image, hein. En tout cas, moi, c'est ce qui ressortait de tout ce qui avait été écrit, d'une gentille femme qui attendait François Mitterrand à la maison et qui était très gentille, très soumise, très résignée, quand même, à sa situation de seconde épouse, on va dire. Et je pense que c'est peut-être ça, moi, ce qui m'a... peut-être ce qui est le plus nouveau dans ce que j'apporte, c'est que c'est pas du tout ça, Anne Pinjot, pas du tout, du tout. C'est une femme qui avait un caractère et qui a un caractère pas facile du tout, très, très dur, très fort, qui tenait tête à Mitterrand, qui pouvait l'envoyer balader...
On va suivre cette histoire, qui est vraiment une histoire, une grande histoire romanesque, finalement.
Ah oui, c'est vraiment une histoire romanesque, c'est une très belle histoire d'amour, c'est une histoire dure et avec deux personnages qui sont très durs. Ouais.
Est-ce qu'il y avait quand vous avez commencé votre enquête, finalement, elle ne répond pas. Vous la rencontrez,
Alors, je la croise un moment.
La croisez un moment.
À l'école du Louvre, qu'à un moment, je vais à l'école. Parce qu'en effet, elle a fait une grande carrière de conservateur. D'abord à Orsay, puis ensuite au musée du Louvre. Et donc, évidemment, je suis allé démarcher des gens qui ont travaillé avec elle.
Vous avez décidé, avec Jean-Marc Roberts, votre éditeur, de faire le livre, d'en faire une enquête.
De reconstituer la vie de cette femme.
Et donc, à ce moment-là, vous allez sur les pistes, sur les traces, on va y venir, puisque vous allez même sur son lieu de naissance, que vous rencontrez les collaborateurs, etc., etc. Donc c'est une véritable enquête de policière finalement que vous menez.
Ouais, c'est presque ça. C'est-à-dire que vous reconstituez à partir de presque rien, à partir d'aucun, il n'y a pas d'éléments, hein, si vous voulez, la vie d'une personne qui a eu un rôle aussi un rôle historique. Hein, c'est-à-dire que en effet il y a eu un moment un débat. C'est-à-dire est-ce que c'était justifié d'écrire un livre sur cette femme? Est-ce que cette femme est un personnage uniquement privé?
Est-ce que la presse people, est-ce qu'on n'est pas loin de la presse people,
Effet, quelle est la limite quelle est la limite de ce qu'on peut faire ou pas autour de cette femme. Et on a considéré, mon éditeur et moi, que cette femme était un personnage public parce que elle avait vécu avec un président de la République pendant 15 ans. Elle n'était pas juste une maîtresse, elle était la compagne. Quand Mitterrand était président, c'est avec elle qu'il vivait. Qu'à l'enterrement de François Mitterrand, elle s'est affichée
à côté de Daniel,
donc comme vraiment une sorte de seconde épouse, encore une fois. Et que cette femme a eu aussi une influence, on en reviendra, sur le Grand Louvre, sur Orsay. Et donc, elle a quand même un rôle.
Est-ce que vous aviez le sentiment, quand vous avez commencé ça, ce qui vous a, j'imagine, poussé à le faire, qu'il y avait quelque part encore des mystères, des choses cachées.
Ah oui, bah, il y avait
sur
tout.
Le,
il y avait elle.
Il y avait elle.
Elle, mais elle
et la
elle.
Vie du président, et à travers elle, la vie du président.
Moi, c'était elle qui m'intéressait. Plus que Mitterrand, quelque part, m'intéressait moins, évidemment, parce que Mitterrand, beaucoup de choses ont été écrites. Moi, c'est vraiment ce personnage qui m'intéressait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été, finalement, qui a été en marge de la, entre guillemets, la grande histoire, qui connaît tous les secrets, qui est vraiment, qui connaît Mitterrand le plus. Voilà, qui, on sait que Mitterrand avait énormément de secrets. S'il y en a une qui les connaissait tous, à mon avis, c'est elle. Alors, et donc, c'est ça qui m'intéressait.
Au départ, vous avez sonné chez qui? Vous avez dit, je tire un fil.
Au départ, j'ai essayé de tirer un fil du côté de Mitterrand. Et... Ça marchait pas, vraiment, à part quelques-uns.
Mazarine, non?
Non, Mazarine, non. Évidemment, parce que Mazarine, c'est un peu son... je vais être un peu...
Alors, attendez, avant de tirer les fils, revenons, parce que je vous ai interrompu, c'est de ma faute. Revenons à l'école du Louvre. Vous la croisez à l'école du Louvre, et là, elle vous dit qu'elle vous écrit une lettre commandée, elle vous dit qu'elle vous a écrit.
À l'école du Louvre, elle a une réaction qui est très vindicative.
Très arrêtée.
Très arrêtée, qui est de dire je ne veux pas que vous écriviez sur moi, il en est hors de question. Et donc, tout ça, en fait, tout le début de mon livre, c'est ce que je raconte. C'est un peu cette quête, ce chemin. Voilà. Et surtout, en fait, j'ai retracé ça, parce que ce que je trouvais intéressant dans sa réaction, c'est qu'on se rend compte, et moi je me suis rendu compte à ce moment-là, que ce n'était pas du tout cette femme, en effet, ce que je disais, résignée, soumise, etc. Mais c'est une femme qui, quand elle me parlait, avait une femme qui me parlait, et on sentait chez elle l'habitude d'être obéie. C'était une femme qui avait l'habitude d'ordonner.
Extrêmement forte.
Et à un moment, elle m'envoie une lettre, un mail, avec une phrase d'ailleurs qui est très forte, qui était « Faut-il passer au cran supérieur pour me faire comprendre ?»
Ah oui, vous le soulignez
d'ailleurs. Quelque chose de très menaçant tout d'un coup. Et évidemment, ça fait écho aussi, on ne peut pas s'empêcher, à toute l'affaire des écoutes téléphoniques. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une femme de pouvoir. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une femme qui se laissait aller ou laissait porter par
les
choses.
Vous dites quelque part, dans ses propos, Anne Pinjot apparaît comme une femme soumise, résignée, victime collatérale de la raison d'État, qui savait très bien que Mitterrand ne divorcerait jamais. Elle possédait toutes les qualités d'un homme, demandait à une épouse le côté qu'un homme demandait à une épouse le côté vierge, la pureté, la loyauté.
Voilà, ça c'est ce que résumait une des tenantes de l'histoire officielle, disait « Passez votre chemin, il n'y a rien à regarder, et vraiment c'est une gentille femme à la maison. »
Alors les témoins, le premier chez qui on sonne, c'est qui?
Mazarine
ne veut pas parler non plus.
Mazarine ne veut pas parler. D'abord, c'est les gens qui ont
travaillé. Mazarine a écrit deux livres dans lesquels elle en parle beaucoup.
Elle parle beaucoup de son père et elle parle de sa mère, mais je trouve qu'elle en fait un personnage qui est très sinistre dans les deux livres. Alors que Anne Pinjot est beaucoup plus. Beaucoup plus piquante et mordante, en fait, que ça. Mais bon, enfin, d'après les témoignages. Donc, je commence. En fait, il y a plusieurs cercles. Il y a d'abord le cercle des gens qui ont travaillé avec elle. Orsay, le Louvre, ça c'est très important. Parce
vous avez commencé par ça ou vous avez commencé par les collaborateurs de Mitterrand?
J'ai commencé par les collaborateurs de Mitterrand, mais ça ne me prenait pas beaucoup. Ensuite, ça c'est les archives. Clermont-Ferrand, Osgore, les lieux sont très importants dans ce livre. C'est-à-dire que vraiment, le cœur de la rencontre, c'est Osgore. Osgore, c'est donc, vous connaissez tous ici, j'imagine. On est vraiment.
Ici, on
là.
Est même Osgore, des fois.
Voilà. Et Osgore, c'est vraiment là où ils vont se rencontrer. C'est les familles Pinjot et famille Mitterrand habitent à 100 mètres l'une de l'autre. Elles ont deux maisons, deux très belles maisons. C'est vraiment des familles très bourgeoises. Et elles vont se revoir ensuite à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, il faut savoir que les Pinjot...
Le berceau de Mazarine Pinjot.
C'est le berceau d'Anne
Pinjot, pardon.
Et que les Pinjot sont des cousins des Michelin. Le père d'Anne Pinjot, c'est un notable, vraiment au sens traditionnel du terme. Il est président de la Caisse d'Épargne, il est président du Rotary, il est président de l'Automobile Club d'Auvergne. C'est vraiment une figure locale. C'est une figure cousine des Michelin. Mitterrand est très proche des Michelin. Donc c'est un univers là où on retrouve, en fait, avec un terreau commun. C'est un terreau où on retrouve les valeurs communes.
Et le grand-père d'Anne Pinjot est une figure aussi locale. C'est pas toujours à son honneur.
Alors, c'est-à-dire qu'en effet, ce que moi j'ai trouvé, alors ça c'était une des découvertes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fouillé dans les archives départementales du Puy-de-Dôme en essayant de trouver des choses sur la famille Pinjot. Et en effet, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que les deux grands-pères Pinjot, les deux grands-pères d'Anne Pinjot, ont été des gens qui ont été très pétainistes, tout simplement, les deux ont été inquiétés à la Libération d'ailleurs. L'un est passé en comité d'épuration et l'autre a été dégradé en tant que militaire pour avoir servi Pétain jusqu'au bout. Donc on est dans des familles et on retrouve
la zone d'ombre de Mitterrand aussi.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers ce terreau familial, évidemment, c'est un miroir, encore une fois. On a, entre les Pinjot et les Mitterrand, on se comprend très bien. On se comprend, on partage les mêmes choses. Et quelque part, Anne Pinjot, qui a 27 ans de moins que Mitterrand, c'est un peu la... pour moi, hein, de ce que j'ai compris, la réincarnation des jeunes filles que Mitterrand a aimées quand il était jeune. Des jeunes filles de bonne famille, avec des longues jupes, hein, parce que quand il se rend compte dans les années 50-60, Anne Pinjot, elle n'est pas avec les liés. Hein,
c'est ce que j'ai. On allait y venir. Je dis, finalement, tout se noue un peu, vous l'avez dit, à Osgore.
À Osgore, au départ, c'est à Osgore.
C'est l'été 56, si je
me souviens. Si elle a 13 ans, Anne Pinjot. Donc elle sert l'apéritif de Mitterrand qui habite à 100 mètres, qui est l'ami de ses parents.
Oui, parce qu'en 60, elle passe son bac.
Voilà, 60, elle passe son bac, elle monte à Paris. Ensuite, ils vont commencer à se voir assez régulièrement. D'ailleurs, Anne Pinjot ira plusieurs fois rue Guynemer chez François et Daniel Mitterrand, en tant qu'amie, hein, puisqu'elle est... Elle n'est pas un peu sous la protection, mais c'est-à-dire qu'évidemment, elle ne connaît personne à Paris, donc elle va voir les gens, les amis de ses parents.
Que les amis des parents.
Voilà, donc, tout simplement. Et puis, il y a quelque chose qui commence à se nouer, parce qu'Anne Pinjot est aussi quelqu'un de... je pense, hein, c'est quelqu'un qui a une envie de savoir, c'est quelqu'un qui a une envie... et c'est ça aussi qui en fait, moi, je trouve, un personnage assez transgressif, quelque part. C'est-à-dire qu'Anne Pinjot, à la base, elle est destinée... à épouser un ingénieur Michelin, avoir trois enfants avec lui, et puis voilà, hein, grosso modo. C'est pas du tout ce choix. Elle va choisir d'être avec un homme marié, ami de ses parents, de 27 ans plus âgé, et elle a envie aussi, elle est très ambitieuse. C'est une femme qui, encore une fois, une femme qui a envie de... c'est une femme de savoir, et c'est une femme avec Mitterrand qui va apprendre des choses. Et ça, c'est vraiment un moteur de cette relation. Mitterrand lui apprend des choses. Et elle, tout au long de sa vie... Elle va devenir, finalement, on retrouve son parcours, elle va devenir conservateur à Orsay, au Louvre, directrice du département des sculptures d'Orsay. Donc c'est une femme qui va choisir sa vie, qui va la construire, sa vie. À la base, dans son milieu, peu de femmes ont cette carrière-là.
Alors très jeune, d'ailleurs, très jeune, et sa liaison avec Mitterrand vient de là aussi, c'est effectivement, vous dites, quelque part, il passe un week-end à Vézelay.
Oui.
Et ce week-end-là, Anne prend conscience de ce qu'elle aspire à être.
Mais sans Mitterrand. Hein.
Une femme de savoir.
Ouais, tout à fait.
Et c'était pour arriver à ça, c'était être une femme de savoir. Et alors,
quand Anne Pinjot arrive à Paris, elle fréquente une école des métiers d'art. Et donc là, elle rencontre en fait tout un monde de jeunes, de filles de bourgeoisie parisienne cette fois-ci, très cultivées, très un peu plus justement rien à voir avec la bourgeoisie provinciale de Clermont-Ferrand, mais une bourgeoisie beaucoup plus libérée sur les mœurs, beaucoup plus cultivée, avec voilà. Et donc ça, c'est ce monde-là en fait qu'elle va vouloir intégrer. Voilà. Et Mitterrand est aussi une figure qui a les mêmes origines et qui a fait le même et qui lui aussi est dans ce milieu-là. Justement. Et c'est ça qui
vous rappelez, sa différence là, 27 ans
27 ans d'écart.
27 ans d'écart, entre deux.
Ouais.
Donc elle passe son bac, elle a 20 ans, elle est à Paris en 63, elle a 20 ans, puisqu'elle est née en 43.
Voilà.
Et en même temps, il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente, parce que 63, Mitterrand est déjà une figure politique extrêmement importante.
Alors, c'est là où il y a... Enfin, oui et non. C'est là où
je... Dans deux 63, ans, il sera candidat à la présidence de la République.
Oui, mais en 63, il est quand même au fond.
Oui, c'est après l'affaire l'Observatoire.
Après, ce qui est incroyable, c'est que l'histoire
l'Observatoire,
entre Mitterrand et Anne Pinjot se noue juste après l'Observatoire. Puisque, l'Observatoire, 59, hein, c'est fin 59. Anne Pinjot monte à Paris en septembre 60. Mitterrand, il est mort, enfin, politiquement, c'est-à-dire qu'il a perdu son siège de député. Il est,
levé son immunité parlementaire.
Non, c'est Jean-François Copé aujourd'hui, hein, je sais ce que je veux dire. C'est-à-dire que,
la légende veut que François Mitterrand ait gardé jusqu'à sa mort dans son portefeuille la liste des députés qui ont voté en 59,
la levée de son immunité
d'immunité parlementaire.
Ouais, c'est possible.
Pardon, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça part de là.
Et donc c'est un
homme qui est dans le trou, dans le creux de la vague en 60.
Voilà, et il y a même des gens autour de lui qui parlent d'idées de suicide. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est touché, coulé. Enfin, et c'est à ce moment-là que la relation avec Anne Pinjot va recommencer. Et quand même, on ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que cet homme qui va se reconstruire, et en effet qui va devenir en 65 l'adversaire du général de Gaulle, est-ce que Anne Pinjot, l'histoire d'amour avec Anne Pinjot, parce qu'en 65, vraiment l'histoire d'amour, il est très amoureux hein, au début, est-ce que ça n'a pas eu un rôle dans cette reconstruction politique?
Elle a peut-être joué un rôle.
D'ailleurs, c'est Mazarine qui écrit ça dans ses livres, qu'elle tapait les livres de Mitterrand à la machine. Elle était quand même là tout le temps. Donc c'est ça qui est intéressant. Et elle va accompagner tout son parcours politique de 64-65, hein, grosso modo, jusqu'à la fin 96. Donc quand même, ça dure plus de 30 ans.
Mais à un moment, elle se pose quand même la question. Est-ce que je reste, est-ce que je le quitte?
C'est
en 1964, là.
Ouais. Alors ça, c'est...
Peut-être parce qu'elle sent que reprenant sa hauteur et sa dimension d'homme politique et les présidentielles se dessinant, il lui échappe un peu peut-être, non ?
Non, pas cette époque, 64, les présidentielles, ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que ça sera la première en 65. On ne sait pas du tout les conséquences que ça va avoir sur la vie politique. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Mitterrand en 65 est prêt à divorcer. Il veut même divorcer en 65. Et Daniel va s'y opposer. C'est par la suite que Mitterrand ne voudra plus divorcer parce que la présidentielle, les présidentielles finalement se succédant, la vie privée des candidats est de plus en plus scrutée. Mais au départ, ce n'était pas vraiment le cas en 65. Et même sous la 4e République, je ne pense pas qu'on s'intéressait autant à la vie privée des hommes politiques que par la suite. Et la présidentielle va changer ça, justement. Et qu'en effet, un homme politique divorcé pouvait difficilement prétendre à la magistrature suprême, en tout cas jusqu'à très récemment, quand même. Enfin, voilà. Les temps ont bien changé, mais bon, bref.
Et comment, alors, parce que vous avez fait une petite allusion, mais c'est quand même important, comment s'organise la vie et comment réagit Daniel ?
Alors, Daniel, en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est une dimension qu'on ne connaît pas, ce que je vous disais, c'est que Anne Pinjot va chez les Mitterrand, c'est-à-dire qu'elle va chez Daniel et François, donc Daniel sait très bien qu'Anne Pinjot. Elle sait non seulement très bien, mais en plus, elle la voit tout le temps à Osgore. Donc, elle se voit, elle se connaît. Daniel Mitterrand, on sait que Mitterrand aime beaucoup les femmes, donc Daniel Mitterrand aime aussi beaucoup les hommes. Hein, je crois que c'est cette chose. Il y avait cette relation qui était un peu établie. Ensuite, comment ça s'organise? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 65, Mitterrand trouve la bergerie de Latch. Et en fait, au départ, Mitterrand a l'idée d'offrir cette bergerie, à Anne Pinjot, pas à Daniel. Et en fait, par la suite, finalement, ce qui va se passer, c'est que les parents Pinjot, qui sont à Osgore, apprennent que Mitterrand a une relation avec leur fille. Donc là, l'amitié vole en éclats, et les Mitterrands sont obligés de quitter Osgore pour aller... Et donc, finalement, ils disent, finalement, ils vont aller à Latché. Et Anne Pinjot va rester à Osgore. Et finalement, l'autre maison qu'ils vont trouver, très loin de Daniel, cette fois, ça sera à Gordes. De l'autre côté, dans les années début des années 70.
Début des années 70, voilà.
Mais l'histoire de Latché est assez amusante à ce titre. Quoi.
Alors, après, il y a quand même la campagne de 65.
Ouais, très important, la campagne de 65.
C'est un élément important parce qu'elle est là, parce qu'elle est présente, j'imagine.
Alors, elle est là, elle est présente, elle assiste au meeting.
Sans être là.
Elle assiste au meeting. Mitterrand la présente à ses amis, Charles Hernu, vraiment les fidèles. Hein, j'ai eu la veuve de Charles Hernu, une des femmes de Charles Hernu plutôt, qui me racontait ça. Et ce qui est intéressant.
Il y avait beaucoup d'amis de Mitterrand dans la confidence à ce moment-là, dans la campagne de 65, oui. Parce qu'elle assiste au meeting.
Je ne cachais pas vraiment d'avoir des relations extra-conjugales. Donc, Anne Pinjot, il pouvait la présenter.
Oui, on considérait qu'elle était dans le...
Elle était dans le circuit.
J'allais dire dans le harem ou dans le cheptel.
En revanche, il sentait qu'il y avait quand même quelque chose de différent, parce qu'elle ne ressemblait pas aux femmes.
Aux autres, oui.
Mitterrand pouvait sortir avec des femmes un peu spectaculaires, parfois. Voilà, Anne Pinjot, pas du tout. C'est un peu une jeune fille.
La discrétion
un
même.
Un peu discrète, timide. Donc, pas du tout dans son œil dans sa cible en général, on va dire. Mais ce qui est intéressant, ce qui est plutôt amusant, on va dire, c'est qu'Anne Pinjot, elle va vivre, quand elle monte à Paris, très vite, elle va s'installer en colocation avec plusieurs jeunes filles, de bonne famille, un peu dans le même style. Et donc, elles vont être six jeunes filles à vivre dans le même appartement, rue du Cherche-Midi à Paris. Et au départ, les cinq colocatrices se rendent compte qu'Anne Pinjot a un amoureux, un petit copain, enfin voilà, mais elle... Elle refuse de leur dire, elle dit non, je ne peux pas vous dire parce que c'est quelqu'un de connu. Évidemment, ça aiguise encore plus la curiosité des filles. Et finalement, elles finissent par découvrir que c'est Mitterrand. Et donc, une fois que Mitterrand, finalement, on sait que c'est Mitterrand, Mitterrand ne va plus se gêner pour venir quasiment tous les jours rue du Cherche-Midi dans ce sorte de gynécée. Et non seulement il vient quasiment tous les jours, mais en plus il se permet de faire des remarques aux jeunes filles en leur disant voilà, vous devriez vous coiffer comme ça, vous devriez vous habiller comme ci, voilà. Jusqu'à un tel point que les filles vont finir par pas détester, mais en tout cas la présence de Mitterrand va finir par les insupporter. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant la campagne de 65, elles vont décorer tout l'appartement de posters de Jean Le Canuet, parce qu'en fait, c'était l'adversaire de Mitterrand, pour bien faire comprendre à Mitterrand que sa présence était...
Elles l'ont donné un surnom, en plus.
Oui,
un petit nom.
Elle l'avait surnommé Miteux, voilà, pour vous dire...
Et Cecchino, qu'est-ce qu'il a appelé
Cecchino ? Alors, Cecchino, c'est Anne Pinjot, qui est le surnom que donnait Anne Pinjot à Mitterrand, parce que Cecchino, c'est Petit François en italien. Voilà. Et donc, et en effet, comme l'Italie était, les rapprochait aussi beaucoup, on sait qu'ils vont plusieurs, faire de très très nombreux séjours à Venise. Hein, c'est même notamment quand Mitterrand sera président de la République, Anne Pinjot et lui partiront très très souvent à Venise. C'est vraiment une de leurs. Je crois que c'était aussi ce qui les rapprochait. Il y a beaucoup de choses dans le domaine culturel hein, qui les rapprochait.
Alors, il y a un moment aussi, bon, lui, elle s'installe, déménage, elle s'installe rue Jacob.
Voilà, tout à fait.
Lui achète la rue de Bièvre avec, ouais. Avec Daniel. Et puis, alors, il n'officialise pas sa liaison avec Anne Pinjot, mais il régularise un peu sa situation avec Daniel, en fait. Et il habite quasiment
assez vite. C'est l'autre versant du problème. C'est un côté très bourgeois, et je trouve très, très, très bourgeois, mais dans les années 70. Hein, c'est-à-dire qu'on ne divorce pas, Daniel rencontre quelqu'un, veut vivre avec cette personne, Mitterrand ne veut pas parce que sa carrière est en jeu. Et donc, finalement, cet amant va venir s'installer rue de Bièvre, tout simplement. Et donc, tout ces Mitterrand, Daniel et donc ce Jean, puisqu'il s'appelle Jean en question, qui était professeur de sport, vont vivre sous le même toit pendant 10 ans, rue de Bièvre. Et ce qui est drôle, c'est que cet homme, ce Jean en question...
C'est un vrai roman.
Ce Jean en question deviendra le prof de sport de Mitterrand et son chauffeur aussi à l'occasion. Donc voilà. Donc c'est vraiment des ménages... C'est assez drôle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est enfin, aujourd'hui, les gens divorcent, j'imagine, quoi, mais ça me paraît... moi, justement, on parlait de génération. Oui. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir une génération, des mœurs d'une génération qui aujourd'hui dépasse... Voilà,
alors, après, bon, on va passer, parce qu'on découvrira beaucoup de choses, mais après, à un moment, elle veut un enfant.
Ouais.
Et c'est juste avant...
La campagne présidentielle de 1974. La campagne
présidentielle de 1974.
Voilà. Et probablement, cet enfant a été conçu pendant la présidentielle de 1974.
Voilà. Oui, puisque Mazarine naît 8 mois après la déclaration officielle et l'annonce de candidature de Mitterrand à la présidence de 1974. Donc... Là, elle se cache aussi. Elle travaille au Louvre.
Elle est conservatrice au Louvre. Il y a déjà des rumeurs. Il faut savoir que dans le milieu professionnel où Anne Pinjot évolue, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on est dans un milieu professionnel où les carrières, les avancements dépendent de l'État, dépendent du ministère de la Culture. Ce sont des postes
conservateurs.
Les conservateurs. Et donc, évidemment, la présence dans un musée de la compagne d'un possible président de la République, ça ne laisse pas indifférent. Donc, alors c'est quelque chose dont elle va pâtir, parce qu'en effet, elle est l'objet de rumeurs, de messes basses, mais c'est quelque chose aussi qu'elle va savoir exploiter, pas pour faire carrière, mais pour réaliser des choses, et pour promouvoir des choses, et des choses finalement dont aujourd'hui on a plutôt à se féliciter que l'inverse. Mais en tout cas, là encore, il y a une ambiguïté vis-à-vis du pouvoir, et cette ambiguïté, elle va en jouer. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce personnage.
Alors c'est à partir de ce moment-là, qui est un point évidemment important, la naissance d'un enfant entre cet homme et cette femme, où un certain nombre d'amis proches de Mitterrand vont être un peu les parrains et les précepteurs presque de cet enfant.
Et puis les financiers. Ça coûte cher, il faut une famille, il faut entretenir. Et
les
donc,
financiers.
En effet, la maison de garde, elle coûte de l'argent. Donc évidemment, le gros sou va être mis à contribution. Là, toute une nouvelle vie va s'organiser.
Rousselet, qui était président des G7, les taxis G7 à l'époque.
Exactement. Voilà. Et en fait, toute une nouvelle vie va s'organiser. Mais le vrai changement,
Premier secrétaire du Parti socialiste.
Il devient une figure de la vie politique, vraiment. C'est-à-dire, premier secrétaire, vous êtes le chef d'opposition, vous êtes suivi par des journalistes en permanence. Mais jusqu'à l'élection, ça va. La vie est organisée. Les gens, finalement, gardent le silence, comprennent que oui, peut-être qu'il y a un enfant.
Vous dites jusqu'à l'élection de 80
pas... Oui. Le vrai changement, le bouleversement, c'est l'élection de 81. Parce que 81, tout d'un coup, on n'est plus dans un secret bourgeois, on est dans un secret d'État. Et là...
Mais entre-temps, pardon, je vous interromps parce qu'on va avoir un peu... Il s'est quand même installé avec elle.
Il s'installe jamais avec elle jusqu'à... C'est l'élection à la présidence de Mitterrand qui va conduire Mitterrand à un moment à se dire si je veux protéger cet enfant et cette femme, il va falloir que je m'installe. Et puis, une sorte de donnant-donnant. C'est-à-dire qu'à un moment, Mitterrand ne peut pas aller rue Jacob tous les jours comme il le souhaite pour voir sa fille et Anne Pinjot.
Mais il y allait quand même.
Il y allait, mais, ça, mais ça mettait tous ces officiers de sécurité dans un état de stress pas possible. La rue Jacob, c'est une rue très étroite. Si en cas d'attaque, d'attentat, il n'y a aucune possibilité d'évacuation. Donc il y avait une pression, notamment de Christian Proutot, qui était à l'époque patron de GIGN, de dire il faut déménager. Anne Pinjot ne veut pas entendre parler de déménagement. Donc il y a une sorte de contrepartie. Très bien, Anne Pinjot va déménager dans un palais de la République, dans une annexe de l'Élysée, Quai Branly. Et Mitterrand, c'est pas une contrepartie.
Où habitait Grossoube, le conseiller.
Voilà, et Mitterrand va vivre avec elle. Donc pour la première fois depuis 20 ans, puisque leur relation elle a commencé vers 63-64, là on est en 82-83, depuis 18 ans, première fois depuis 18 ans, François Mitterrand et Anne Pinjot vont vivre ensemble dans une annexe de l'Élysée, dans un appartement surveillé en permanence par des gardes du corps qui vont escorter sa fille, et donc elle, puisqu'elle s'occupe de sa fille, et donc elle aussi, à l'école, le matin, le soir. Donc voilà, donc toute cette vie va s'organiser. Et là, c'est vraiment une vie au secret, c'est-à-dire que c'est une vie tout d'un coup qui devient... Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, c'est-à-dire le titre La Captive. C'est pour moi...
C'est une vie de recluse.
C'est une vie de recluse, et puis La Captive, pour moi, il y avait un côté très masque de fer dans cette histoire. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est très intime d'un chef d'État, d'un monarque républicain, et qui vit dans une annexe, dans un palais de la République. Il faut voir le Quai Branly. Hein. Le Quai Branly, c'est vraiment un blocos.
Vous avez des gardes devant. C'est une laideur pas possible.
C'est un bâtiment qui est réservé en général à des militaires en fonction, des hauts militaires, des hauts fonctionnaires. Bon, voilà, c'est pas très drôle, c'est pas marrant, quoi. Voilà. Et tout d'un coup, vous êtes dans une vie qui n'a plus rien à voir. Et ça va durer quand même jusqu'en 94-95.
Oui, jusqu'à ce qu'il déménage.
Jusqu'à ce qu'il déménage à avenue Frédéric Leplay. Voilà, exactement, tout à fait.
Effectivement, donc, alors là, évidemment, ils vivent quotidiennement ensemble,
ouais,
sous la surveillance des officiers de sécurité, etc. Et cette petite fille vit dans ce monde absolument incroyable.
Oui, dans ce monde qui est assez... en effet, hein, ça je comprends, c'est que pour une petite fille, c'est pas un monde qui est très joyeux. C'est pas un monde... voilà. Donc c'est un monde où vous devez faire attention, vous devez faire attention à qui vous parlez, vous devez pas dire, en effet, qui est votre père. Donc tout ça, c'est Il y a un culte du secret. Je voudrais juste revenir quand même par rapport à l'histoire du secret. Ce qui est très intéressant, c'est que Anne Pinjot, je l'ai dit au début, et c'est la cousine des Michelin. On est là aussi, hein, c'est pas un hasard que cette histoire... les Michelin, on dit souvent que les Michelin, c'est la famille la plus secrète de France. C'est une famille où on ne dit rien. On ne parle pas. On parle surtout pas des sujets... on parle jamais d'argent, on parle pas d'amour, on parle pas... Voilà, il y a pas des sujets, on ne parle pas. Et Anne Pinjot, elle a en elle cette culture du secret. Et c'est parce qu'elle avait en elle cette culture du secret aussi que cette histoire a pu durer aussi longtemps. Imaginez quand même... Si on prend les choses à l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une situation de conflit dans ce couple, imaginez la menace potentielle qu'elle faisait peser sur Mitterrand, que cette femme aurait pu faire peser sur Mitterrand. Or, jamais il a été question de ça, c'est-à-dire que cette femme, il pouvait lui faire une entière confiance. Une entière confiance. Daniel parlait, Daniel savait très bien qu'elle était bavardée, elle était... Voilà. Anne Pinjot, il n'y avait aucun risque.
Alors, qui a aidé et soutenu l'autre ? Parce qu'on dit, bon, elle l'a aidé à faire sa campagne, la politique, etc., etc. Sans doute, elle était présente.
Ouais.
Et elle, tout d'un coup, elle est conservateur de musée, et puis elle s'occupe d'Orsay, du musée d'Orsay, ouais, qu'on va inaugurer, d'une grande exposition au Louvre,
et la pyramide du Louvre.
Ah. Tout d'un coup, cette femme apparaît comme... je crois que c'est Jacques Lang qui dit quelque part, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième ministre de la Culture derrière moi.
Ouais. Alors ça, c'est vraiment c'est assez passionnant, d'ailleurs, toute cette partie-là. Anne Pinjot, donc, je vous dis, c'est une passionnée de son... Elle est spécialiste des sculptures du 19e siècle. Alors, les sculptures du 19e siècle, tout le monde s'en fichait. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... Déjà, les sculptures, tout le monde s'en fiche, en général, dans un musée.
C'était Giscard qui avait voulu
Alors,
le
musée d'Orsay, au départ. Alors, Orsay, très intéressant. L'histoire d'Orsay, c'est pas Giscard, c'est Pompidou qui lance Orsay. Et c'est consolidé par Giscard. Voilà. Et quand la gauche arrive au pouvoir, une des premières choses que soumet Jacques Lang à Mitterrand, c'est de dire « Orsay, c'est un projet de droite, c'est la majorité précédente, il faut arrêter les travaux, on va faire autre chose. » Évidemment, Jacques Lang ignore totalement que la compagne du président de la République travaille à Orsay. Donc évidemment, son projet se fait entièrement retoquer, Orsay continue. Et si vous voyez Orsay, il y a une spécificité à Orsay que vous pouvez voir quand vous y allez, c'est la place de la sculpture. Quand vous allez dans un musée, la sculpture, c'est vraiment le parent pauvre. C'est toujours relégué au fin fond, dans des salles, à l'arrière-cour. Voilà. Enfin, Là, la première chose que vous voyez, vous rentrez dans la nef centrale, c'est des sculptures partout. Et ça, c'est le poids d'Anne Pinjot, le poids politique d'Anne Pinjot. C'est-à-dire d'avoir imposé que la nef centrale, la partie la plus emblématique de ce musée, soit entièrement, exclusivement consacrée à la sculpture. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, quand vous avez des documents officiels du musée d'Orsay, vous vous rendez compte que la nef centrale est créditée à la fois à l'architecte italien, qui s'appelait Gaio Lanti, et à Anne Pinjot. Donc elle a un rôle là-dedans qui est non seulement dans la continuation des travaux et dans la réalisation du musée. Le deuxième chantier qui est évidemment le Grand Louvre. Alors, pas la pyramide. La pyramide, c'est paye.
C'est plus tard.
Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, qui a décidé de lancer le Grand Louvre? Le Grand Louvre, c'est quoi? C'était récupérer le bâtiment du ministère des Finances, redonner au palais, au musée du Louvre, sa cohérence, et agrandir et donner de l'espace parce que les œuvres commençaient à étouffer. Enfin, il y avait un problème d'emplacement, de place. Et évidemment, aucun pouvoir politique avait osé s'attaquer au ministère des Finances, qui était quand même tout puissant en France. Et c'est Mitterrand qui décide ça. Alors ça, l'idée de faire ça, c'est une idée qui a au moins un demi-siècle. C'était une idée qui était en cours. Tous les conservateurs rêvaient de faire le Grand Louvre, rêvaient de réaliser le Grand Louvre. Anne Pinjot avait travaillé. J'ai retrouvé un document qui est une thèse qu'elle a défendue à un moment à Bologne, où elle avait travaillé sur le dernier réaménagement du Louvre qui était conduit par Napoléon III. Elle connaissait toutes ces problématiques par cœur. Et évidemment, quand Mitterrand arrive au pouvoir, la première décision qu'il prend, c'est de faire le Grand Louvre. Bon, voilà, évidemment, l'influence d'Anne Pinjot, elle est là. Et ça, c'est une décision qui est fondamentale dans les deux septennats de Mitterrand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit retenir deux choses de Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort et le Louvre. Enfin, je veux dire, c'est les deux principaux, à mon sens, les plus symboliques de son règne, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment quelque chose là où elle a une influence considérable. Et dernière chose, plus modeste, mais c'est évidemment le... Dans la continuité du Louvre, on a réaménagé les jardins des Tuileries. Et là, évidemment, c'est elle, vous verrez, tout le carré central des Tuileries, c'est elle qui a choisi toutes les sculptures en disant, voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ci et comme ça. Quoi.
Contre donc, d'ailleurs certains...
Alors, contre d'ailleurs, oui, là, c'est...
Certains architectes ou jardiniers.
Qui est un type très sympa, qui s'appelle Pascal Cribet, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur paysagiste
français. Qui dit que c'est
français,
une laideur pas possible.
Et qui m'a dit, mais c'était horrible. C'est vrai que c'est... Bon, après, c'est vrai que c'est des sculptures qui sont très... Voilà, c'est des sculptures du 19e siècle, quoi. Donc c'est un peu... C'est un peu pas pompier, mais voilà, c'est pas forcément la finesse incarnée.
Je fais un petit retour en arrière. Quand il apprend qu'il est malade,
oui.
82, 83
81, novembre 81.
Juste après les élections.
Voilà.
Est-ce qu'il lui dit?
Ah, il lui dit tout de suite. C'est la seule à qui il le dit tout de suite. C'est vraiment... Il y a une anecdote qui est racontée par la Couture, donc qui vient de Mitterrand, hein, sans doute. C'est-à-dire qu'il va le soir chez Anne Pinjot, rue Jacob, parce qu'elle habite encore rue Jacob. Hein, donc elle lui dit... Elle a 38 ans à ce moment-là. Elle est femme cachée d'un président de la République, bientôt veuve dans 2 ans. C'est ça, hein, parce que ça veut dire ça.
Et mère d'une petite fille.
Et mère d'une petite fille cachée dont personne ne connaît l'existence et qui n'a pas le nom de Mitterrand. Donc, je veux dire...
Oui, parce qu'il l'a pas reconnu en plus.
Non,
il l'a reconnu très tard.
Il l'a reconnu.
Mazarine.
Ouais, tout à fait. Et donc, pour elle, c'est quand même, tout d'un coup, ça vous fait quand même un choc. Et l'anecdote que raconte la Couture, c'est qu'il prend un livre dans la bibliothèque, comme ça, au hasard, malin, et le premier livre sur lequel il tombe, c'est la Bible. Voilà. Et donc, en effet, lui qui aurait normalement avoir eu ce cancer, il en avait pour 3 ans à tout casser, et finalement, il vivra 15 ans. Voilà. Donc, est-ce que c'était un signe de miséricorde? Voilà, peut-être.
Juste un petit mot, elle l'accompagne jusqu'à la mort, jusqu'en 1995.
Janvier 96.
96, pardon. Ouais. Janvier 96. Elle reste toujours aussi discrète. Hein.
Toujours.
Mais y compris après la mort de... Ouais. À part les obsèques où, effectivement, elle s'affiche ouvertement sous sa voilette,
ouais,
que j'évoquais tout à l'heure, aux côtés de Daniel Mitterrand. Alors, cette femme, elle est volontaire. Elle a été en même temps soumise à un homme.
Soumise, c'est pas le mot que j'emploie.
Pas soumise, mais
elle était
dévouée.
Voilà, dévouée et aimante. Enfin, c'est une femme qui a vraiment cette histoire aussi d'un amour très
Et quand
très
on
absolu.
Interroge, quand on regarde, vous interrogez par exemple des collaborateurs à Orsay ou au Louvre, etc. Elle n'était pas toujours sympathique.
Non, mais c'est une femme forte, c'est une femme tenace, c'est une femme qui a dû aussi se se fabriquer une carapace aussi par rapport à la vie qu'elle avait et au regard aussi des autres, hein, parce que les regards sont parfois violents quand vous êtes plongé dans un milieu politique qui est par définition dur et hostile. Donc elle s'est forgée une carapace. C'est une femme dure, mais qui est dure, qui s'est endurcie par la vie qu'elle a choisie. Mais c'est une femme très volontaire, très tenace. Et ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'en effet, elle n'est pas toujours sympathique. C'est un personnage pour moi que j'assimile à une sorte, comme une héroïne de tragédie, c'est-à-dire quelqu'un à un moment qui doit se hisser, qui doit se fabriquer un destin, c'est-à-dire qu'il doit être à la hauteur, en effet, d'un président de la République, d'un chef d'État, avec ce que ça implique comme renoncement et comme sacrifice. Et elle va tenir ça, en fait. Et elle a quand même eu la vie.
Oui, parce qu'elle tient un rôle, mais qu'elle ne peut jamais afficher.
Bien sûr, c'est ça en tout cas, ce rôle du silence, oui, ce rôle d'avoir aussi une hauteur par rapport à qu'elle a gardé la mort de François Mitterrand. Et je trouve que c'est une femme qui a choisi sa vie. C'est une femme, finalement, on peut dire, elle a été captive au sens prisonnière, une raison d'État que d'un homme, quelque part. Mais elle a voulu vivre avec François Mitterrand, elle a vécu avec François Mitterrand, elle a voulu un enfant avec François Mitterrand, elle a eu un enfant avec François Mitterrand. Elle a voulu faire une carrière, parce que c'est péjoratif, moi c'est quelque chose de péjoratif, mais en tout cas, elle a voulu défendre ce à quoi elle croyait, c'est-à-dire la sculpture du 19e siècle, défendre des projets architecturaux, elle les a défendus. Et aujourd'hui, peut-être que si on a le Grand Louvre, si on a Orsay, c'est grâce à elle. Je trouve que c'est une femme... qui s'est hissé à une hauteur que pas beaucoup de personnes n'auraient pu atteindre. Voilà. Et je trouve que c'est quelqu'un d'admirable en ce sens-là. Et pour moi, elle me fait penser à une héroïne de tragédie. Parce que souvent, je la compare à Andromaque dans ce livre. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette...
Je pense à un passage. Elle est allée une seule fois à l'Élysée.
Ah non, plusieurs fois. Ah non, officiellement.
La première fois.
Finalement, elle y va pour la Légion d'honneur de son père.
C'est ça. Avec Mazarine qui a 4 ans.
Il y a 10 ans.
À 10 ans.
C'est-à-dire qu'en fait, le père d'Anne Pinjot, qui était un des très bons amis de François Mitterrand, est sur le point de... est très malade, va mourir. Donc François Mitterrand, c'est un peu le grand pardon. Mitterrand est président de la République et donc va le décorer de la Légion d'honneur. Et donc une cérémonie privée est organisée à l'Élysée. On est en 1984. Et donc en effet, Anne Pinjot est là. Toute la famille Pinjot est là. Le père, c'est assez... assez étonnant comme scène. Mais en revanche, Anne Pinjot, très souvent, le soir, pouvait se glisser. Moi, j'ai parlé au secrétaire de Mitterrand, qui pouvait voir, en effet, Anne Pinjot se glisser, notamment pour parler du Louvre. Ils avaient tous les plans, les projets, voir où ça en était. Donc c'était quelque chose vraiment qui, encore une fois, qui les unissait. C'était la réalisation de ce chantier leur donnait quand même, c'était plus qu'une compensation à la captivité à laquelle elle devait se résoudre.
Mais c'est vrai que c'est un personnage de tragédie.
Oui, c'est un personnage de tragédie.
Où sont vos relations avec Mazarine Pinjot et Anne Pinjot?
Alors, Anne Pinjot n'a jamais réagi au livre, donc elle est restée conforme et au silence à laquelle elle s'est astreinte.
Et Mazarine?
Alors Mazarine, dit qu'elle n'a jamais lu le livre, mais a une réaction assez véhémente, que j'interprète pour deux choses. Je pense que, c'est un peu son domaine réservé.
Elle est bien.
Mais elle considère qu'elle est la seule habilitée à pouvoir écrire sur cette histoire. Comme en plus elle est, vous aviez travaillé sur les entretiens, je crois que vous me disiez, donc elle est celle qui est garante de la mémoire officielle. Donc,
avec André Rousselet. Et ses frères.
Voilà, donc c'est un peu. Je comprends sa réaction, en même temps, c'est pas grave, parce que je trouve que cette histoire méritait d'être racontée et je trouve que elle restera mieux. C'est pas une question de prétention ou pas, je pense qu'elle sera toujours mieux racontée par quelqu'un d'extérieur.
Oui. Que par sa fille, et les évidemment. Proches du président ont eu des réactions? Vous avez eu des réactions, genre
Non, très peu.
Charas.
Non, étonnamment, très très peu. Je pense qu'il y avait une stratégie qui était de dire on n'en parle pas, qui est conforme en fait à ce qu'elle voulait. Parce qu'en fait, dans le livre, vous verrez, c'est-à-dire qu'au début, si vous l'achetez, mais au début, elle était très vindicative dans le sens où il y a eu beaucoup de menaces. Elle me disait, je vous attaquerai en justice, des choses comme ça. Et plus de 3 mois après, donc c'est-à-dire que maintenant la prescription en plus est passée, il n'y a jamais eu le moindre démarche dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que le livre finalement, il a fait sa vie, on en a pas mal parlé aussi. Donc, malgré tout, jamais il y a eu la moindre démarche entreprise contre ce livre.
Juste une dernière question. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, c'est une femme très active et toujours très, très forte. Elle est à la retraite depuis 2008, hein, officiellement. Donc, elle a quitté Musée d'Orsay.
Elle a 71 ans.
Alors, elle est 43, elle a 71 ans, tout à fait. Mais elle continue à venir toujours au Musée d'Orsay. Elle continue à avoir son bureau au Musée d'Orsay. Et c'est quelqu'un de toujours très actif dans le sens où elle est même. Je sais qu'elle n'a pas forcément des très bonnes relations avec le patron d'Orsay, qui s'appelle Guy Cogeval, hein, qui a beaucoup de projets, lui, de rénovation. Et elle-même est plutôt.
Rassurez-moi, il veut partir les statues.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a toujours un rôle et elle essaie toujours de se battre pour imposer ses vues.
Bien, David, merci infiniment.